Témoins du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Pourquoi partir sur le chemin de Compostelle ? Qui sont ceux qui, tous les jours, marchent sur les sentiers, les routes, menant jusqu'à la ville de Santiago, en Espagne ? Et que trouvent-ils là-bas ? À l'occasion de l'année jubilaire 2021, votre radio chrétienne vous propose un regard actualisé sur ce pèlerinage millénaire. Dans ce premier épisode, nous découvrons l'histoire de Saint-Jacques le Majeur et du pèlerinage qui en découle. Jacques de Zébédée, ou Jacques le Majeur, est l'un des 4 premiers apôtres de Jésus. Frère de Jean, il était pêcheur sur le lac de Tibériade avant de rencontrer le Christ, comme nous l'explique Adeline Recoy, historienne spécialisée dans l'histoire de la péninsule ibérique au Moyen-Âge et en particulier sur l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Pierre, Jacques et Jean sont partis du cercle le plus intime de Jésus-Christ parce qu'ils sont avec lui, par exemple, au moment de la résurrection de la fille de Jaïr. Ils sont avec lui tous les 3 au moment de la transfiguration. Ils sont avec lui encore au Jardin des Oliviers pendant l'agonie du Christ avant son arrestation et sa passion. Et de Jacques, nous savons aussi, c'est le seul apôtre dont le martyr apparaît dans les Actes des Apôtres au détour d'une petite phrase qui dit qu'il a été décapité sur ordre de Hérode Agrippa, ce qui nous amène dans les années 42-44 à peu près. Évidemment, c'est tout ce qu'on sait de lui. Il n'a pas écrit, on ne sait rien d'autre.
La suite relève de la légende et de l'histoire. La légende raconte que malgré le fait que Saint-Jacques ait été martyrisé à Jérusalem, son corps aurait été transporté jusqu'en Galice. Adeline Recoy nous explique ce que l'on sait à ce sujet.
C'est ce qu'on appelle l'histoire de la translation, qui raconte que juste après son martyr, 2 disciples de Saint-Jacques, Athanase et Théodore, ont pris son corps et sa tête et les ont embarqués à Jaffa, c'est Tel Aviv maintenant, et que miraculeusement, Dieu la gouvernant, le bateau ou la barque a traversé la Méditerranée et est allé jusqu'en Galice, ce qui est assez courant dans les histoires des saints, dans la géographie. Le saint décide de l'endroit où il veut reposer jusqu'au jour du jugement dernier. Donc là, ça explique que Saint-Jacques voulait reposer dans le pays qu'il avait en principe évangélisé. Et cette découverte est située dans les années à peu près 830. On découvre donc en Galice le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Alors, il y a une certaine logique puisque depuis déjà 3 siècles à peu près, dans un texte qui circule en Méditerranée, l'Espagne a été attribuée à Saint-Jacques pour son évangélisation au moment de la Pentecôte. Mais donc l'Espagne est déjà associée à Saint-Jacques et par conséquent découvrir le tombeau de Saint-Jacques en Espagne, aux confins de l'Espagne, ce qui en plus renvoie à la parole du Christ d'aller évangéliser jusqu'aux confins du monde, c'était logique. Et la nouvelle a été diffusée très vite, probablement depuis la cour royale chrétienne en Espagne, puisque dès le Xe siècle, donc quelques décennies plus tard, nous avons des témoignages de pèlerins qui viennent de loin, d'Allemagne, du fin fond de l'Aquitaine, c'est le fameux Godescalque du Puy, en Velay, qui est à l'époque en Aquitaine, et même d'Arménie, pour visiter le sanctuaire. Le texte dont j'ai parlé, celui qu'on appelle le bréviaire des apôtres, qui accorde à chacun des apôtres au moment de la Pentecôte une partie du monde à évangéliser, il est connu de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, tous les chrétiens, toute la chrétienté, sait que, en principe, c'est Saint-Jacques qui a évangélisé l'Espagne. Et immédiatement après la découverte, eh bien, la nouvelle est diffusée dans toute l'Europe, dès le début, à une Europe qui savait que l'Espagne avait été évangélisée par Saint-Jacques, on annonce que Saint-Jacques est enterré là. Donc ça a eu tout de suite, et c'est certainement une volonté politique, ça a eu tout de suite une dimension européenne. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est pourquoi les pèlerins, dès qu'on leur a annoncé ça, se sont rendus à cet endroit-là pour vénérer cet apôtre-là.
Et alors pourquoi ?
Mais je ne sais pas. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. On n'a pas de texte, les premiers récits de pèlerins que nous possédons sont bien plus tardifs, mais c'est un petit peu comme si ça avait répondu à un besoin. Alors c'est vrai qu'aller à Jérusalem au moment de la découverte, donc au 9e siècle, c'est un peu compliqué parce que Jérusalem, depuis 2 siècles, elle est aux mains des musulmans. C'est vrai qu'à Rome aussi, la situation n'est pas toujours très claire à cette époque-là. Est-ce que ça a à voir avec cela ? Je ne sais pas, mais je trouve ça merveilleux.
Des pèlerins qui viennent de l'Europe entière pour se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques, un tombeau mystérieusement arrivé depuis la Judée, cela paraît incroyable. Daniel Rago est le président de Web Compostela, une association mandatée par la Conférence des évêques de France pour offrir un accueil francophone aux pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle. Pour lui, on peut se poser la question de la véracité de cette histoire, mais...
Scientifiquement parlant, à 70% de probabilité, on pense réellement que c'est lui. Ceci dit, ce n'est pas un point de foi. Des personnes pourront nous dire, ce ne sont pas ses ossements. Très bien. Simplement, ce que l'on rajoute, c'est que depuis 11 siècles que les pèlerins viennent implorer Saint-Jacques, et bien franchement, si Saint-Jacques était pour départ, je pense que maintenant il doit y être.
Ce qui est sûr, c'est que depuis 11 siècles, les pèlerins se déplacent vers la ville de Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Combien étaient-ils dès le Moyen-Âge ? Adeline Recoy.
La grande église qui existe encore, l'église romane, qui commence à être construite à la fin du XIe siècle, dont la construction va se poursuivre pendant un peu plus d'un siècle, elle peut accueillir 2500 personnes. Donc on peut supposer que s'il n'y avait eu que quelques rares pèlerins, on ne se serait pas engagé à cette époque-là dans une construction de cette taille-là. Ça nous donne déjà une petite idée de l'affluence. À part ça, au XVe siècle, nous avons quelques documents. Alors là, ce sont les pèlerins qui arrivent des possessions anglaises. Et ces pèlerins qui arrivaient par voie maritime, on n'a pas ceux qui arrivaient par voie terrestre, mais ceux qui arrivaient par voie maritime, nous savons qu'au cours du XVe siècle, les bateaux qui transportaient entre 40 et 400 pèlerins par bateau ont transporté à peu près 20 000 à 30 000 pèlerins partis des ports anglais. Ce sont les seuls chiffres dont nous disposons et qui montrent quand même que pour, évidemment, l'Europe à l'époque n'avait pas la même population que maintenant, loin de là, mais l'importance du pèlerinage.
On pense à tort qu'après le Moyen-Âge, il y a eu un creux dans la fréquentation sur les chemins menant à Saint-Jacques de Compostelle. Adeline Recoy nous explique pourquoi c'est une fausse idée.
Alors, l'idée que la réforme surtout, parce que la Grande Peste, au contraire, ça a attiré beaucoup plus de gens à Saint-Jacques, et le XVe siècle est une époque, une deuxième apogée véritablement après le XIIe siècle du pèlerinage à Saint-Jacques. Mais pendant longtemps, on a dit, il y a eu les guerres de religion, il y a le protestantisme, dans toute l'Europe du Nord devient protestante, il y a Erasme, la dévotion moderne, on ne va plus à Saint-Jacques de Compostelle. En fait, on y va toujours et on y va en très grand nombre. Ce qui se passe, c'est qu'au XIXe siècle et au XXe siècle aussi, on a associé, ça c'est la théorie positiviste, le Moyen-Âge à l'âge de la foi, et on avait donc étudié le pèlerinage uniquement pour le Moyen-Âge. Depuis une vingtaine d'années, on étudie les dossiers des hôpitaux, on se rend compte que finalement, on étudie les récits des pèlerins, ils sont beaucoup plus nombreux pour l'époque moderne, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe siècle qu'avant, et on s'aperçoit que tout ça, c'était une idée basée sur une théorie. Donc le pèlerinage a continué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Alors évidemment, il n'y a plus beaucoup d'Allemands, il n'y a plus beaucoup de gens qui viennent des Pays-Bas ou d'Angleterre, il y en a encore quelques-uns, mais en revanche, les Français, les Italiens, les Polonais se précipitent et les Portugais se précipitent à Compostelle au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle.
Ce qui a vraiment porté un coup d'arrêt au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et à ceux qui prenait ces chemins, ce sont les guerres.
C'est la Révolution française qui évidemment coupe les chemins qui vont vers l'Espagne, puis naturellement la campagne, les campagnes de Napoléon en Espagne, qui vont porter un coup presque d'arrêt au pèlerinage. Et dans la première moitié du 19e siècle, on s'aperçoit que le pèlerinage n'est plus qu'un pèlerinage local. Mais il reprend à partir des années 1860, et comme on est en période positiviste et qu'il faut que la science démontre la véracité des faits, du moins c'est ce que les gens pensent, ce n'est plus une question de foi, c'est une question scientifique, eh bien on va procéder à partir de 1879 à des fouilles pour trouver si effectivement le corps de Saint-Jacques se trouve enterré dans la cathédrale en dessous du maître-autel. Ils vont découvrir un tombeau du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils vont découvrir une sorte de coffre avec les restes du squelette de trois personnages masculins. Donc tout de suite, eh bien, c'est Saint-Jacques, Théodore et Athanase, ses deux disciples. Et le pape, Léon XIII, par sa bulle en 1884, authentifie les restes et enjoint tous les chrétiens, tous les catholiques, à repartir en pèlerinage vers Saint-Jacques. Seulement, la première moitié du XXe siècle a été un peu troublée. Une guerre mondiale, la guerre d'Espagne, une seconde guerre mondiale, et ça explique pourquoi ce n'est qu'à partir des années 1950 que va ressurgir le pèlerinage à Compostelle. Et surtout, alors là, surtout, les grandes dates, c'est la visite du pape Jean-Paul II. C'est la première fois qu'un évêque de Rome se rend sur le tombeau de l'apôtre Jacques en 1982 et son appel à l'Europe de se souvenir de ses racines chrétiennes et à la jeunesse de repartir vers Saint-Jacques. Et puis en 1989, les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse à Compostelle. C'est véritablement là le coup d'envoi de ce que nous connaissons actuellement.
Pour terminer sur l'histoire du pèlerinage, une petite explication de l'origine des années jubilaires ou années saintes.
Ça vient de la Bible. Dans la Bible, on sait que tous les 50 ans avait lieu une année particulière qui était annoncée au son d'une corne de bélier, Yobel, d'où jubilé, et que pendant cette année-là, par exemple, toutes les esclaves étaient libérées, toutes les dettes étaient remises, ça durait une année, puis ça recommençait 50 ans après. Dans la chrétienté occidentale, c'est une invention du pape Jacques VIII, en 1300, qui déclare, pour attirer des pèlerins à Rome, il annonce en 1300 que tous ceux qui iront à Rome cette année-là, qui à Rome se confesseront, communieront, visiteront quelques églises, eh bien, tout leur péché leur sera pardonné. Alors, ça a attiré un monde fou à Rome, au point que le pape a d'ailleurs, à ce moment-là, il l'avait proclamé en mars, je crois, il l'a rallongé d'une année, et ça a dû donner des idées à Saint-Jacques de Compostelle, qui, quelques années plus tard, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de raison, sans doute, hein, puisque c'est un siège apostolique, qui n'est pas des années jubilaires. Et, à mon avis, en 1372, qui est une année où le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, tombait un dimanche, eh bien, il commence à proclamer que chaque fois que le 25 juillet tombera un dimanche, ce sera à Saint-Jacques-de-Compostelle une année sainte ou jubilaire, et que pour gagner son jubilé, il faudra aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, se confesser, communier, faire une offrande à l'apôtre, et tous les péchés seront pardonnés.
Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon et ancien recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, nous donne à ce sujet un éclairage plus religieux.
Le jubilé, dans la tradition biblique, c'est une réalité qui est à la fois humaine et spirituelle. C'est une année, on va dire, de jachère. C'est une année où on doit faire le point et accomplir des actes jubilaires, des actes de miséricorde. C'est l'occasion de pardon, c'est l'occasion de conversion, c'est l'occasion d'un retour à Dieu, d'une jachère spirituelle. Du coup, ce prétexte-là, qui est magnifique, est l'occasion de fête, bien sûr, mais je crois qu'il est l'occasion surtout de redécouvrir notre rapport à Dieu, rapport à l'Évangile, et de se dire, j'ai besoin de temps en temps d'années de jachère, alors peut-être pas une année entière, mais en tout cas un temps de jachère. Le jubilé, c'est aussi le dimanche, c'est-à-dire la fête de la résurrection du Seigneur, c'est le mystère pascal, c'est revenir à l'essentiel, et pour nous l'essentiel, c'est ça. Parfois on se dit, voilà, là, c'est une année où il y aura plus de grâce. Non, c'est une année où je serai plus attentif à la grâce qui m'est donnée de façon infinie et à chaque instant. Donc comme on ne peut pas faire mieux que l'infini à chaque instant, eh ben, il n'y a pas plus ou moins de façon que Dieu a de se donner. En revanche, il y a plus ou moins de façon que j'aime moi de le recevoir. Donc c'est l'occasion pour moi d'ouvrir mon cœur.
Merci à Monseigneur Emmanuel Gobillard, merci à Adeline Rucquois et à Daniel Rago que vous avez entendu lors de ce premier épisode de Témoins du Chemin. Le générique a été réalisé par Alex Dirks, alias Dixie. Le prochain épisode de Témoins du Chemin vous met en marche sur les différentes voies existantes en France et en Espagne. Alors, comme disent les pèlerins, Ultria et Suseya.